écoutez Radio France Internationale, il est 4h ici à Paris, 3h en temps universel.
Gali Bonin.
À la une de ce journal, après des jours de violence, le pouvoir de Damas a annoncé la fin de son opération militaire dans l'ouest du pays. Les récits de massacres ont été dénoncés à l'international, mais cette crise n'a pas ébranlé les fondations ou la crédibilité du nouveau gouvernement, analyse un spécialiste. L'actualité, c'est aussi cette proposition de cessez-le-feu partiel que l'Ukraine devrait présenter ce mardi. Volodymyr Zelensky est en Arabie Saoudite pour négocier avec le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio. Lui fait de la diplomatie à sa manière, avec un style inhabituel pour la région. Le président du Ghana, John Dramani Mahama, vient de boucler une série de visites dans les pays de l'AES. Objectif, les faire renouer avec la CEDEAO. Et le crash des actions de Tesla, la société d'Elon Musk a perdu la moitié de sa valeur boursière depuis décembre. Une chute libre que ne parvient pas à freiner la compagnie automobile. La Turquie continuera d'apporter tous les soutiens possibles à la Syrie. Les réactions internationales sont très nombreuses après les massacres de ce week-end sur les Alaouites qui ont fait au moins 1000 morts civiles. Londres condamne des tueries horribles et Washington demande aux autorités syriennes de poursuivre les auteurs des massacres. Personne, à part Israël, ne pointe directement le pouvoir en place, ce qui vient finalement asseoir sa légitimité comme seul interlocuteur à la tête de l'État syrien, Théo Renaudon.
Ahmad al-Shara, nouveau leader syrien, non coupable des massacres, mais doit poursuivre ses auteurs. La position de la plupart des chancelleries occidentales n'incrimine pas directement Damas et finalement assoit un peu plus le nouveau pouvoir en place, selon l'analyste de France 24, Wassim Nasr.
Même Rubio, donc ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État américain, on peut pas l'accuser de sympathie pour Ahmad al-Shara, ne l'a pas accusé. Mais l'a appelé à trouver et juger les coupables. Donc, c'est un signe d'une compréhension, disons, de la situation, au-delà du bruit et de la désinformation sur les réseaux sociaux.
Reste que ce nouveau pouvoir est fragile, notamment à cause des sanctions économiques américaines.
Il reste à la communauté internationale de faciliter la tâche à ce nouveau pouvoir. Dans l'état actuel des choses, sans lever réelle des sanctions, surtout de la part des Américains, même si les Européens ont fait beaucoup de choses, les Français étaient moteurs dans cela, mais juste à titre d'exemple, pour schématiser un petit peu, les Qataris veulent bien payer les salaires de l'administration syrienne. Sauf qu'ils sont dans l'incapacité de le faire à cause des sanctions américaines.
Le nouveau pouvoir syrien réclame la levée de ces sanctions depuis la chute de Bachar el-Assad.
Et ce nouveau pouvoir qui se consolide encore un peu plus, la présidence annonce un accord entre Damas et les forces kurdes pour intégrer toutes les institutions autonomes de la minorité au sein de l'État syrien. Cette entente garantit l'ensemble des droits constitutionnels à la communauté kurde. En contrepartie, les régions sous contrôle des FDS dans le nord-est du pays reviendront sous l'autorité de Damas d'ici la fin de l'année. Cela comprend toutes les institutions civiles et militaires mises en place depuis le début de la guerre civile en 2011, mais aussi les postes frontières, les aéroports et les champs pétroliers et gaziers du Kurdistan syrien. 4h03 ici à Paris, 6h03 à Jeddah en Arabie Saoudite, où doivent se rencontrer le président ukrainien et le chef de la diplomatie américaine. Au cœur des négociations, une proposition de cessez-le-feu partiel de la part de Volodymyr Zelensky. Ce serait le premier en plus de 3 ans de guerre s'il venait à être appliqué. Selon des sources militaires ukrainiennes, Kiev proposera une trêve aérienne et maritime, une proposition jugée prometteuse par l'envoyé de Washington, Marco Rubio. Et dans ce contexte, le maire de Moscou affirme que la ville est visée par une attaque massive de drones ukrainiens. L'information vient tout juste de tomber, nous suivrons les développements dans nos prochaines éditions. Fin de tournée diplomatique pour John Dramani Mahama. Après le Mali et le Niger ce week-end, le président du Ghana est arrivé lundi à Ouagadougou pour boucler sa tournée au sein des États de l'AES. Sans l'aval officiel de la CEDEAO, le chef de l'État ghanéen tente, à travers cette nouvelle médiation, de relancer des liens bilatéraux, mais surtout de convaincre les juntes militaires au pouvoir à Bamako, Niamey et Ouagadougou de renouer avec la CEDEAO. Les précisions de Guillaume Thibault.
Juste avant de décoller ce lundi matin pour Ouagadougou, John Dramani Mahama a cassé les codes diplomatiques sous-régionaux en évoquant sur les réseaux sociaux de la présidence la nécessité d'une reconnaissance de l'Alliance des États du Sahel par la CDAO. Une proposition visiblement évoquée par le chef de l'État à Niamey dimanche avec le numéro 1 de la junte Abdourahamane Tiani. Dès son arrivée à Ouagadougou, à l'aéroport Thomas Sankara, le président du Ghana, accueilli avec les honneurs militaires, s'est rendu au salon présidentiel avec le capitaine Ibrahim Traoré pour un premier tête-à-tête. Les deux hommes se connaissent. Invité, le numéro 1 de la junte burkinabé s'est rendu à l'investiture du chef de l'État en janvier dernier à Accra. John Dramani Mahama avait déjà appelé à l'intégration sous-régionale, alors qu'à Niamey, la junte n'a fait aucune référence à la CDAO, qu'à Bamako, Assimi Goïta n'a fait aucune déclaration. La présidence burkinabé a indiqué que les échanges entre Ibrahim Traoré et John Dramani Mahama ont porté sur la situation sécuritaire au Sahel et la situation géopolitique sous-régionale et internationale.
À Cuba, la Cour suprême affirme avoir remis en liberté plus de 550 prisonniers, comme promis par le gouvernement de l'île à la mi-janvier. Cet engagement faisait suite à la décision de l'ex-président américain Joe Biden de retirer Cuba de la liste des pays soutenant le terrorisme, décision aussitôt révoquée par Donald Trump lors de son entrée en fonction. Si La Havane confirme ses libérations, la capitale n'a toutefois jamais rendu publique la liste des prisonniers, mais des ONG ont recensé plus de 200 prisonniers politiques, la grande majorité condamnés après avoir participé aux importantes manifestations anti-gouvernementales du 11 juillet 2021. Moins de deux mois après son retour à la Maison-Blanche, l'effet Trump se fait sentir sur l'économie mondiale, mais surtout sur l'économie américaine. Chômage et inflation en hausse, croissance moins importante que prévu. Les mesures spectaculaires enchaînées par le président américain inquiètent les milieux économiques. Ce week-end, le milliardaire a écarté la possibilité d'une récession, mais les bourses ont continué à reculer ce lundi. Et dans ce paysage, une entreprise s'en tire particulièrement mal, c'est Tesla, la marque de voitures électriques d'Elon Musk. Les précisions de Justine Fontaine.
La valeur en bourse de Tesla a ainsi été divisée par deux depuis décembre. Au départ, certains acteurs financiers pensaient que la proximité du milliardaire d'origine sud-africaine avec le nouveau président pourrait favoriser l'entreprise. Le cours de Tesla a donc d'abord grimpé, mais l'euphorie n'a pas duré. Les licenciements massifs ordonnés par Musk de milliers de fonctionnaires et son salut nazi ont pesé à la baisse sur les intentions d'achat de Tesla. Des appels au boycott ont été lancés, des manifestations contre la marque et son patron ont eu lieu également ces derniers jours aux États-Unis et en Europe. Par ailleurs, les acteurs financiers croient de moins en moins aux promesses sans cesse repoussées d'Elon Musk de parvenir rapidement à des véhicules autonomes, sans chauffeur. Et puis, ce qui inquiète surtout les marchés financiers, ce sont les ventes de la marque en chute libre, divisées par deux en janvier en Europe, idem en Chine en février par rapport à la même période l'an dernier. Enfin, Tesla met du temps à renouveler ses modèles, alors que la concurrence est de plus en plus forte sur le marché de l'électrique.
Justine Fontaine. En France, les 18e assises du journalisme se tiennent à Tours ce mardi 11 mars. Comme chaque année, RFI et plusieurs médias sont partenaires du baromètre Via Voice sur l'utilité du journalisme. L'année dernière, année des Jeux Olympiques, on avait évidemment parlé sport. En 2025, ce qui passionne les Français, ce sont les faits divers. Frédéric Genot.
Ce qui ne change pas, ou presque, c'est la perception que le journalisme est un métier utile pour 86% des personnes interrogées. Et la confiance règne particulièrement pour tout ce qui concerne le sport et la culture. Le fact-checking, qui est censé être une garantie de fiabilité, n'emporte pas forcément l'adhésion des Français, au moment, pourtant, où les infox circulent de plus en plus. Des Français qui se méfient des informations relayées par les réseaux sociaux. Le thème de l'année, les faits divers. Les hommes à égalité avec les femmes ressentent des émotions négatives à une très large majorité, de la colère, de la tristesse, de la curiosité ou du dégoût, de la peur aussi. Les personnes interrogées considèrent que les faits divers devraient occuper une place au moins aussi importante que la politique, l'actualité internationale ou économique. Pour 19% des personnes interrogées, c'est le procès des viols de Mazan qui a le plus marqué l'année. Le deuxième exemple cité spontanément est l'affaire du petit Grégory qui a fait l'objet d'une récente série télévisée.
Le compte-rendu de Frédéric Genot qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi.